sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Cinéma.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Muriel Joudet, Lucille Como et Thierry Chaise pour parler ensemble de 1917 de Sam Mendes, Trois aventures de Brooke de Yuan King, 12 000 de Nadège Trébal et puis il y aura un coup de cœur de Thierry Chaise pour l'extraordinaire voyage de Marona d'Anka Damian. Nous ouvrons cette dispute avec 1917 de Sam Mendes, sorti mercredi sur les écrans français, qui a déjà reçu 2 Golden Globes, celui du meilleur réalisateur, celui du meilleur film, qui ont déjà 10 nominations aux Oscars, qui vont se dérouler bientôt. Rappelons que l'action se déroule dans le nord de la France, en 1917, donc, et que 2 jeunes soldats anglais se voient confier la mission de traverser les lignes ennemies pour contacter une unité alliée, avancée donc de l'autre côté de ces lignes, qui s'apprête à tomber dans un traquenard. Côté formel, ça, vous devez le savoir aussi, le film se présente comme un plan séquence de 2 heures promettant une action en temps réel.
Yes, sir. Is he
alive? And with your help, I'd like to keep it that way. But they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you don't, we will lose 1,600 men, your brother among them.
There's only one way this war ends. Last man standing.
What the hell are you doing, Lance Corporal?
No! No! No!
If you fail, it will be a massacre.
Good luck.
Alors, bonne chance pour parler de 1917. Moi, c'est comme au bac, j'ai fait l'impasse hein, sur 1917. J'espère que ça tombe pas. Bon, c'est tombé, non, je plaisante. Enfin, je plaisante pas dans le sens que je ne l'ai pas encore vu. Peut-être en cette fin de semaine, ça va dépendre un peu peut-être de vos regards sur ce film. D'ailleurs, un premier tour de table rapide pour un premier sentiment sur 1917. Thierry Chaise.
Je dirais un tour de force avec tout ce que ça implique et le film à Oscar par excellence.
Muriel Joudet.
Il manquait un peu les manettes pour jouer.
Lucille Como.
Oui, je dirais que la prouesse technique est inédite, mais le propos sur la guerre, lui, ne l'est pas.
Bon, Thierry Chaise, pour développer maintenant autour de 1917.
Bah, c'est toujours intéressant donc, de voir Sam Mendes au cinéma parce que...
En petit rappel...
Ils essaient de ne pas se répéter. Il a fait American Beauty. Il a fait La Guerre du Golfe, c'était Jared, c'était il y a 15 ans. Il a fait Away We Go, une petite comédie romantique. Il fait les Noces Rebelles. Bref, c'est quelqu'un qui va à chaque fois dans des terrains divers et variés. Et il y a un côté chez lui. Alors, les seules fois où il s'est répété, c'est les 2 James Bond. Mm-hmm. C'est Skyfall et Spectre. Mais il y a chez lui, voilà, une envie de jouer quand il va au cinéma. Et alors là, c'est l'envie de jouer puissance 1000, puisque l'idée est d'essayer de raconter cette histoire dans un plan séquence. Quand on est spectateur, alors oui, on n'a pas les manettes du jeu vidéo, mais on essaye de voir, on s'amuse à regarder où est-ce que, à un moment, est-ce que ça coupe, est-ce que ça a été bien fait ou non. Il y a le côté prouesse technique. La prouesse technique, c'est la sienne et c'est évidemment celle de Roger Deakins, qui est le chef opérateur, qui va remporter son 2e Oscar Après celui pour Blade Runner 2049, c'est à peu près acquis. Et quand je disais tout à l'heure que c'est un film à Oscar, c'est que ça appartient à cette catégorie qui a un peu disparu, qui sont des films qui remportent un énorme succès en salle et qui ont aussi des statuettes depuis ces dernières années, que ce soit Moonlight, tous les films généralement ne marchent pas vraiment en salle. Moi, j'y ai pris, voilà, j'ai l'impression de partager le plaisir d'un cinéaste qui a ce bonheur-là, lui l'homme de théâtre, lorsqu'il est au cinéma, et bien d'un seul coup, de jouer avec les codes du cinéma, d'y jouer à fond. C'est donc, oui, un tour de force, et en même temps, ce tour de force prime évidemment aussi, pas tellement sur l'intrigue, parce qu'il y a un suspense, mais sur ce que ça raconte. C'est-à-dire que, en effet, le paquet cadeau est plus beau que le cadeau. Voilà. Mais moi, le paquet cadeau, il me plaît bien. Il y a deux jeunes acteurs, Dean Charles Chapman et George McKay, qui interprètent. Il y a le petit plaisir de retrouver ici Benedict Cumberbatch, là Colin Firth à l'intérieur. Oui, c'est un pur plaisir. Et c'est un pur plaisir un peu égoïste par moment, qui ne raconte pas, c'est pas une théorie sur qu'est-ce que la guerre de 14-18, et on peut y voir une ode à l'héroïsme par ce geste-là. Voilà, moi je pense que c'est du spectacle, un grand spectacle, et c'est déjà pas mal.
Alors, la gameuse Muriel Joudet.
Oui, c'est pas anodin, à mon avis, que le film prenne la Première Guerre mondiale. À mon avis, c'est la guerre la plus... celle qu'on peut traiter de manière la plus dépassionnée. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas... 14-18, ce n'est pas les soldats qui tombent au combat, c'est la guerre comme spectacle, comme vous l'avez dit, comme grand spectacle, complètement, voilà, c'est plus que des figures, les soldats dans le film. Et moi, ce qui m'a vraiment gênée en voyant ce film, c'est que je me suis dit, ah bah voilà, le film de guerre, en fait, est traversé par l'idée que, finalement, il y a un progrès technique, en fait, dans le film de guerre. Plus les années passent, plus on voit que les cinéastes essayent de surpasser ce qui a été fait, et ce surpassement est toujours d'ordre technique. Il y a eu Dunkerque, il y a eu surtout, je pense, le premier vrai renversement, je pense que ça a été le soldat Ryan, il faut sauver le soldat Ryan.
En tout cas, son début, oui.
Voilà, cette idée que l'immersion, c'est la vérité de la guerre, que pour faire vivre aux spectateurs la guerre, il faut que ce soit immersif.
Le soldat Ryan, c'est quoi, il y a 30 ans, là, quand même, pas loin. Combien ?
20 ans.
18 ? Oui. Pas plus vieux que ça ?
Non. Bon. Et il y avait cette idée, voilà, que on doit suivre, on doit être en fait dans le même état que le soldat, collé à lui, ne pouvant pas anticiper ce qui va arriver. Et ça, c'est très, en fait, au bout d'un moment, le spectateur de 2020 finit par être anesthésié parce qu'il sait qu'à un moment l'avion va lui arriver en pleine gueule. Et là, je me suis dit, mais où sont les lunettes 3D ? Parce que c'est vraiment ça, le film est pensé pour la 3D. On sait qu'à un moment il y aura, voilà, un petit bébé au milieu des décombres et puis un arbre qui vont représenter la vie qui revient, la guerre qui se termine. Tout est assez programmatique dans, justement, l'imprévisibilité du projet et de la guerre, dans l'idée que, finalement, on est comme le soldat au milieu de nulle part. Et je pense que ce que je trouve terrible dans le film, c'est ça, c'est que l'immersion est la vérité du film et la vérité du film de guerre. Or, ça ne produit absolument rien, si ce n'est un état complètement abrutissant, puisqu'on est dans une sorte de présent de la survie, et en même temps, au bout d'un moment, on est mis à distance de tout. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'on s'ennuie profondément, parce que cette survie systématisée fait que, enfin, ça s'annule.
Moi, je craignais une attraction.
Non, parce que justement, on sait tellement que les attractions vont venir, que le feu va arriver.
Non, mais une attraction au sens, pour le coup, péjoratif. Enfin, comme si on était dans une montagne russe.
Oui, c'est ça.
Quoi.
Mais
sans grand intérêt.
Bah, à force, en fait, l'attraction, c'est bien quand ça dure 10 minutes. Au bout de 2 heures, je pense que tous les effets s'annulent. Et par ailleurs, je pense que le numérique a complètement déréalisé la guerre. Et on a fait, un jeu vidéo.
Lucille Gomeau sur 1917 de Sam Mendes.
Oui, moi je dirais pas en jeu vidéo, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal qui est que par le progrès technique, donc cette histoire de pouvoir faire des sutures quasiment invisibles à l'écran, on est dans un jeu extrêmement archaïque qui est pour moi un jeu de loi, c'est-à-dire qu'on avance d'une case, on recule et ça met profondément à distance parce que c'est très artificiel. Moi je suis rentrée dans le film avec plutôt un esprit positif parce que je m'attendais m'attendais à une prouesse technique qui annule totalement le sens. Or, la prouesse technique d'emblée, elle est tellement assumée dans sa sécheresse, c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B, on s'embarrasse d'aucune lourdeur, il n'y a pas d'explication psychologique, les personnages, on les prend au moment où ils sont et on avance avec eux, que je trouvais ça assez intéressant. Mais en effet, je suis d'accord avec Muriel, il y a quelque chose qui s'annule, c'est-à-dire que la tension que l'effet crée ne peut pas durer deux heures. Et donc, on s'habitue à avancer au même rythme qu'eux. Et finalement, là, on oublie totalement cette histoire de plan-séquence de deux heures. Par ailleurs, il faut quand même dire qu'il y a des pauses. C'est-à-dire que les personnages, certes, ils avancent, mais parfois, il y a des pauses. Et à mon avis, les moments de pause sont problématiques parce que c'est à ces moments-là qu'on se pose la question du film de guerre, de ce que c'est la guerre. Et à ces moments-là, on est dans un film extrêmement traditionnel dans les valeurs qu'il...
ces moments de pause sont des moments explicatifs
Pas forcément explicatifs, mais bon, il y a un moment, par exemple, vous le disiez...
psychologisant
Oui, tout à fait, un peu psychologisant sur les personnages. Il y a un moment où un des personnages se retrouve dans une ville totalement en ruine, qui d'ailleurs est complètement déréalisée de l'extérieur, parce que le décor, c'est assumé comme un décor quasiment de théâtre. Et en revanche, une fois qu'on le suit, lui, à l'intérieur, dans une cave, là, on est en décor réaliste, avec une jeune fille qui a l'air hyper mal, et avec un petit bébé. Et ce moment-là est un moment de stase, vraiment de pause, où se joue quelque chose qui est de l'ordre du psychologique et des conséquences possibles de la guerre sur l'humanité en général, ce que c'est la loyauté, ce que c'est l'amitié, etc. Or, ça, on l'a déjà vu 50 fois. Et par ailleurs, vous parliez de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle a une spécificité, c'est la guerre de place, c'est-à-dire la guerre immobile, on ne bouge pas. Or, c'est un vrai parti pris, pour le coup, de faire de cette guerre-là une guerre où on avance en permanence, puisque ces personnages-là sont exceptionnels. Ils doivent passer d'un endroit à un autre, ce qui n'était pas le cas de 95% des soldats.
Et éventuellement gagner la tranchée d'après.
J'attendais quelque chose là-dessus, une sorte de réflexion quand même sur ce que c'était la Première Guerre mondiale de ce point de vue, de la mise en espace de la Première Guerre mondiale. Quand on pense aux films qui ont été faits, Sentier de la gloire, etc., sur les tranchées, c'est des films qui restent dans un périmètre extrêmement limité, où il y a un effet claustrophobie. Là, on est complètement à l'inverse et j'ai l'impression que le film ne réfléchit absolument pas à ça, à ce mouvement-là. C'est quand même dommage.
Thierry Chaise, votre question ?
C'est pas faux, vraiment. Non, parce que le dernier film qu'on a pu voir comme ça, c'est Birdman, par exemple.
En plan séquence.
En plan séquence. Et avec là, cette idée d'un film qui se déroule dans un théâtre et donc une logique, finalement, là-dessus, avec un peu plus d'hystérie. Moi, j'y vois vraiment un film de spectacle. Et en effet, dès le départ, on comprend bien qu'il n'y aura pas une réflexion profonde sur ce que c'est. Une fois encore, on peut juste dire, voilà, c'est deux héros, mais point, et ça s'arrêtera là. Et que si on le regarde comme un film de spectacle, je trouve que ce spectacle est là. En effet, interrompu par ces moments de pause qui auraient pu être raccourcis, et le film ne faisait pas deux heures, mais l'arrivée, pour moi, sur les tranchées, par exemple, il y a quelque chose qui vous remet dans le cadre. À partir du moment où on a abandonné en effet toute idée de réflexion sur la guerre de 14 et presque de, en effet, toute cette question de justement une guerre où on ne bougeait pas, de traverser ça et d'en faire un grand spectacle. Voilà, c'est l'entertainment et c'est en ça que je dis que c'est un film des Oscars, parce que pour les Oscars il y a l'entertainment et pour les Oscars c'est un film d'auteur.
Ouais, mais ça, voilà. Ça est très problématique. Hein,
oui,
évidemment.
Mais on voit bien que c'est ça aussi. On voit
Lucille,
bien que c'est ça aussi.
Mais juste pour ajouter, en effet, sur le côté spectaculaire, moi, au départ, comme j'étais bien, j'étais contente de voir ce film, je me suis dit, il y a presque quelque chose d'un peu cynique dans la manière d'aborder cette guerre-là, qui est quand même particulière sur la question de l'espace, je ne vais pas y revenir, mais d'une manière totalement ludique, en effet, comme un jeu. Il y a un personnage qui s'appelle, quand même, le personnage qu'ils doivent trouver s'appelle Stevenson, et c'est une sorte de carte. D'ailleurs, il montre une carte, c'est une île au trésor. En gros, c'est des gamins, parce qu'en plus, ils sont hyper jeunes, qui doivent trouver un trésor. Il y a quelque chose d'un peu cynique, qui crée une forme de tension. Je me suis dit, ah là, il y a quelque chose dans la froideur, la sécheresse, assumer autant ce côté halos et ce côté ludique, qui peut être une vraie réflexion sur la guerre, pour le coup. Mais le film ne l'assume pas, c'est-à-dire qu'il s'embarrasse au fur et à mesure. Ça aurait pu être intéressant, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, si ça avance comme ça, aussi sec pendant deux heures, ça crée quelque chose, ça crée, de fait, par la forme, un discours sur la guerre qui n'est pas inintéressant.
Mais ça n'a pas été le cas.
Non, ça n'a pas été.
Il dit que c'est un hommage à son grand-père, voilà.
Oui, qui lui racontait les histoires de la guerre. Et là, on voit bien qu'il y a un côté histoire.
Il était une fois.
Encore une fois, j'insiste vraiment sur l'idée que s'il avait fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait reproché plein de choses. Là, c'est tellement loin qu'il peut presque jouer. Et pour compléter les propos de Thierry Chaise, enfin, les apporter ma vision plus que complétée. C'est un film sur le spectacle, mais je dirais encore plus sur le numérique aussi. C'est-à-dire que évidemment que le numérique appelle de manière presque naturelle ce genre de film. Et moi, je me souviens de L'Arche russe de Sokurov, c'est ça,
oui.
Qui est un film d'1h30 tourné en plan séquence, en pellicule. Donc c'était, il y avait vraiment
cette idée de Saint-Pétersbourg.
Voilà, de prouesse totale où on se demandait mais comment il a fait pour filmer pendant 1h30 comme ça en une prise tous ces acteurs. Là, la question ne se pose même plus et je trouve quand même donc que le sujet est le numérique et je trouve ça quand même très très laid dans le film, c'est collure, en fait on sent les collures entre les, je sais pas si on dit, enfin le fait de coller comme ça les plans séquences les uns avec les autres, on voit où ça se passe, les petites sutures, et je trouve ça extrêmement extrêmement laid. Pour moi c'est à ce moment là que se joue le côté jeu vidéo, mais c'est pour ça que je comprends la frustration de Lucille, c'est parce que le sujet n'est pas du tout la guerre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique, où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on va aller, et on ira encore plus loin avec, je pense, quand même cette idée, cet écueil qui a été celui de la 3D, c'est que en fait l'immersion n'est pas le futur du grand spectacle, c'est quelque chose qui est très frustrant et abrutissant pour le spectateur, et ces films de plans séquences de 2 heures, je pense pas que ça va, il y en aura encore, mais c'est pas il y a quelque chose d'insatisfaisant pour le spectateur.
Bon, je crois que je vais revoir Les Croix de Bois de Raymond Bernard.
Non,
c'est peut-être bien. Puis je reverrai Pierre Blanchard, comme ça, un acteur que j'aime tellement. Pour les autres, vous pouvez aller voir 1917 de Sam Mendes dans les salles, bien sûr, pour vous faire votre propre opinion. Nous allons parler dans cette émission de 3 aventures de Brooke, de 12 000 et de l'extraordinaire voyage de Marona.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute cinéma avec 3 aventures de Brooke de Yuan Xing. Ce qui ce n'est pas la traduction littérale du titre chinois, qui voudrait plutôt dire 3 arrêts, 3 stations de Brooke. La référence aux 4 aventures de Renette et Mirabelle d'Éric Rohmer semble ici une évidence. On va évidemment en parler. On va suivre dans ce film une jeune femme chinoise, Cinci, qu'on peut appeler aussi Brooke, qui voyage seule au nord de la Malaisie et qui va crever. Non, je parle de son vélo. C'est son vélo. Et crevaison à répétition.
My name is Pierre.
Yeah, my name is Pierre.
上天才会给你宝贵的人生。
Just think of that lone star. Don't
pull me left behind. 我内心固执的追求, 只有我自己看得见。 但我希望我没错。
Peaceful life. I don't know. It's very hard to get.
Premier sentiment sur ces 3 aventures de Brooke, un film d'ailleurs on fera gagner quelques places en fin d'émission dans le jeu de la dispute pour aller le voir dans les salles. Noël Joudet, ça vous fait rire. C'est la tête de Lucille Gaumont.
Sur les places à gagner, je crois qu'elle en veut une. Non, pardon.
J'aurais pas dû vous mettre en face peut-être, pas dans le même studio finalement. Je suis contente de vous retrouver, avouez.
Oui.
Très, moi aussi. Alors, on parlait des 3 aventures de Brooke. Là, ça a gagné, hein, je vous le rappelle.
Je sais, j'en veux une. Exercice de style un peu trop poli, je pense.
Ça s'arrête à la phrase.
Oui.
Ok. Lucille Gaumont.
Non, moi, je dirais que c'est vraiment du sous Rohmer et surtout du sous Hong Sang-soo et que la référence écrase vraiment le film.
Thierry Chaise.
un charmant dictionnaire de citations. Là, pour le coup, le film de festival dont toute sa splendeur.
Ouais, le film de petit festival.
Oui, mais de festival. Oh, de festival.
C'est pas gentil pour les petits festivals.
Non, de festival.
Ouais. Non, qui ont... c'est le deuxième choix, troisième catégorie. Mmh. Ouais.
Liste A, liste B.
C'est ouais, ça. C'est plutôt nombé. Ça. Bon, on va quand même en parler. Pourquoi nous faisons la fille du film bouche, il faut bien le dire, sur ce film. Marielle Jodet.
Non, mais je pense qu'on va être à peu près tous d'accord. C'est-à-dire que.
Dommage.
On n'est pas du tout dans l'imprégnation.
Je vais le défendre, tiens.
Non, mais vous.
Je vais essayer.
Je pense, voilà, c'est pas un film qui m'énerve, contrairement à d'autres.
Non, ça
on va parler, aller. Mais. J'aime les films romériens qui s'imprègnent de Romer, qui peuvent s'inspirer de quelque chose chez Romer. Là, c'est de l'ordre du papier calque, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire qu'on reconnaît Renette et Mirabel, il y a
Le Rayon Vert,
il y a La Collectionneuse. C'est une sorte de medley comme ça, et comme le disait très justement Thierry Chesque, plutôt Lucille, pardon.
Non, pardon.
qui dit des choses justes aussi parfois.
Oui, oui non, bien sûr, mais c'est Romer.
Et
passant par Aung San Suu. Et c'est vrai que c'est très gênant en fait de voir à quel point le cinéaste est omnubilé par ses références et à quel point il ne cherche même pas à en sortir. Il veut vraiment citer.
Elle, la cinéaste.
Elle, ah, pardon, excusez-moi. Bon.
Non, non, mais je précise.
Oui. Et même, je dirais qu'on est même dans de l'exercice maniéré. Les acteurs ont l'air de jouer une fausse innocence, les hasards sont surjoués, les rencontres, voilà. Rien n'a l'air impromptu, rien n'est habité par une grâce qui est chez Romer et surtout par, dans Renette et Mirabel, c'est pas juste deux jeunes filles qui se rencontrent à la campagne. Et au bout d'un moment, ça prend une dimension complètement métaphysique, même si c'est
décolle.
Un mot un peu excessif.
Ça
voilà, ça décolle. On est ailleurs parce que Romer est un cinéaste qui ne coïncide pas avec ses acteurs. Et donc, il y a un décalage qui naît de ce vieil homme qui filme ces jeunes filles, qui filment ce monde auquel il n'appartient pas. Là, je vois pas du tout
là,
toute cette dimension-là. Voilà, il n'y a pas de relief.
Entre la cinéaste et ses interprètes.
Ça fait un peu atelier, en fait. On sent qu'il joue à faire du Romer. Et c'est pas déplaisant parce que le film a une lenteur, le film nous fait découvrir une ville, des paysages et tout ça, mais au bout d'un moment, surtout à la fin quand Pascal Grégory débarque, on se dit aïe, là pour le coup c'est du Aung San Suu, hein, c'est un peu Isabelle Huppert qui débarque dans In Another Country, on se dit il fallait peut-être pas pousser jusque là et en même temps, ce qui se passe avec Pascal Grégory c'est peut-être ce que je préfère, la dernière conversation qu'il a avec Brooke, là le film peut-être décolle, se décolle de ses références qui étaient jusque-là totalement, c'était du premier degré.
Lucille Comeau.
Oui, il y a une forme en effet d'émancipation du film à ce moment-là. Moi aussi, je suis d'accord. En fait, c'est à ce moment-là que le film perd complètement sa cohérence, qui est en effet le calque d'un film de Romer.
Donc elle crève, elle rencontre des gens.
Voilà, elle rencontre des gens.
Jours,
elle rencontre une jeune fille.
Ça s'arrête.
Fille,
elle crève. Il se passe
groupe,
plusieurs jours.
Exactement.
Trois fois.
En fait, c'est trois fois la possibilité d'une journée ou de deux journées.
Ce sont les mêmes journées.
Exactement. Voilà, exactement. Ce que en plus Aung San Suu a fait dans un film qui est probablement un de ses meilleurs films, qui est Matin calme à Séoul. Et en fait, c'est intéressant ce film pour les gens qui aiment, nos auditeurs qui aiment Aung San Suu, c'est de le voir, ça permet de comprendre ce qu'on aime autant chez Aung San Suu et qui est si difficile à exprimer parce que c'est de l'ordre, en effet, de l'âme, de la grâce, comme vous le disiez, et aussi de la noirceur. Et c'est là que je me suis rendu compte
la qualité de l'écriture,
quand même. Oui, la qualité de l'écriture qui réside dans une forme de décalage, c'est-à-dire que la naïveté de la mécanique d'Aung San Suu, parce qu'il y a une vraie naïveté aussi, et elle est fausse évidemment, ce n'est pas la même fausse naïveté qu'on a là, qui est complètement artificielle. C'est-à-dire que c'est à nouveau une jeune fille qui, en effet, est en quête d'identité. Elle va se retrouver face à des miroirs d'elle-même. Tout ce qu'on a déjà vu chez Aung San Suu, des doubles, des formes de répétition, des rencontres avec des hommes plus ou moins lâches, ce qui est quand même aussi un des motifs de Aung San Suu. Mais ça ne crée aucune empathie pour le personnage. Mmh. Alors que chez Aung San Suu, au bout de quelques scènes, tout simple soit le processus, tout simple soit la mécanique, on a immédiatement une forme d'empathie pour le personnage. Je pense que ça tient aussi beaucoup à la direction d'acteur. Là, cette actrice, moi, je l'ai oubliée aussitôt que je l'ai vue. Alors que Pascal Grégory, en effet, il dégage quelque chose
parce qu'il est en décalage complet, je pense, aussi dans le film, avec le décor et avec les autres acteurs, qui crée enfin une forme de gravité qui annule totalement l'essai romérien, parce que là, on n'est plus du tout chez Romer, on est dans quelque chose de très différent.
C'est un acteur de Romer.
Mais dans le personnage, ne l'est pas du tout. C'est un personnage qui n'est absolument pas romérien, parce que du coup, il se révèle et puis qu'on est dans un ordre qui est complètement différent. Il y a une vraie... Ça plombe presque la fin. Mais à la limite, on préfère ça. On avait envie de lui dire, mais c'est ça qu'il fallait faire, cette histoire-là, on a plus envie de la connaître que cette espèce de répétition, de calque.
Ouais. Tout est relatif, moi je ne suis pas aussi emballé par ce troisième segment. Thierry Chaise.
Mais moi, pas du tout. Ça a fini de m'achever. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, les défauts que je voyais sur 1917, c'est ça, puissance 1000, adapté au film d'auteur. C'est-à-dire que il y a tout... C'est le dispositif, c'est la même chose. Là aussi, j'aurais aimé être au courant du jeu vidéo pour pouvoir arrêter et faire pause. Il y a a priori tout ce qu'on peut aimer chez Romer. Un cinéma de la parole, l'idée que donc le dialogue, c'est l'action, une économie de plan.
La jeunesse des interprètes.
Voilà, l'idée que ces personnages ne savent pas ce qu'ils veulent, donc à partir de là, le hasard va jouer un grand rôle. Après tout, pourquoi pas. Bon, les deux premiers, vraiment... copier-coller, mais dans les deux premiers, on dit, ah tiens, c'est donc le même récit, il y a des figurants. Et puis arrive le troisième, et là, d'un seul coup, alors, je ne vais pas divulgâcher comme on dit, mais enfin, il y a voilà, le récit d'un trauma et tout ça, et là, c'est pas possible, on ne peut pas faire... Non, mais là, c'est pas possible. On arrive avec Pascal Grégory, qui a le même prénom, Pierre, que dans Pauline à la plage, et en effet...
Oh là, Pierre s'est répandu.
Voilà, d'un seul coup, oui, mais...
Surtout chez Romer.
Venant, à mon avis, de quelqu'un qui est vraiment... C'est comme du Jean-Pierre Jeunet où tout est parfait. Et ben là, c'est parfait. C'est le petit Romer, le pion sans que soit illustré. Surtout, mettez bien vos chaussons en rentrant de peur d'abîmer le parquet. Je trouve vraiment, c'est joli. C'est joli. Ah, c'est gentil, c'est joli.
C'est plus amateur que. La Joliette, c'est quand même empêché par une forme d'amateurisme qui est plutôt mignonne. On sent que la cinéaste montre qu'il n'y a rien dans cette ville, avec le musée du riz, là, et tout ça. J'aime bien. C'est ça qu'il fallait creuser. Cette idée qu'en fait, on s'ennuie ferme, qu'il n'y a rien à visiter, que voilà.
Oui, que c'est un espace quand même qui est singulier. Voilà. C'est un espace de frontière entre la Chine et la Malaisie, où les langues sont complètement diverses. Donc, du coup, il y a des fois où on ne se comprend pas parce qu'une partie de la population parle le malaisien et l'autre par le chinois, et encore c'est pas le chinois de Pékin, etc. Moi, ça, tout ça, je c'est une forme de promesse.
Vous trouvez que c'est traité, ça?
Non, c'est pas traité.
Mais sur la pauvreté, non, parce qu'il y a quand même pour le coup des plans assez étonnants qui veulent faire du cinéma. Il y a comme ça un travelling qui accompagne les personnages qui marchent dans cette vieille rue de... Le nom du...
Alto. Paris.
Oui, ça y est, on a oublié le nom. Pourtant, il est répété à peu près 2000 fois dans...
Altastar.
Oui, bon.
Il y a étoile dedans, quoi.
Absolument. Mais effectivement, malgré la joliesse des interprètes ne fait pas tout. Parce que, voilà, on a quand même des jeunes filles très jolies, très douces, qui vont se promener dans une belle lumière, dans des beaux endroits, avec un beau temps. Et franchement, c'est quand même d'un grand ennui.
Mais c'est le sujet. Enfin, pour le coup.
Oui, non, mais l'ennui ne vient pas du sujet. L'ennui vient vraiment de la faiblesse scénaristique, de la faiblesse d'écriture, de la faiblesse de direction d'acteur, parce qu'il n'y a pas d'incarnation. On en reparlera peut-être pour un autre film dans un instant. Mais cette question-là de l'attachement possible à un personnage, vous en parliez pour 1917, il y a quand même quelque chose qui s'y n'advient pas, Thierry Chaise.
Moi, je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a vraiment, quitte à jouer un jeu, le troisième épisode... Les deux premiers, il y a une recherche quelque chose. Troisième, voilà, ça affirme. Donc, il fallait en effet uniquement faire le troisième. Mais pas faire les deux premiers. Mais j'allais, il va enfin se passer quelque chose. Et vraiment, c'est un film qui se regarde beaucoup, en permanence. Qui non seulement regarde ses références, mais qui se regarde aussi. Trop de miroirs.
Je trouve ça désarmant, en fait, même qu'il y ait les cartons des jours. Les cartons en carton, en plus, comme vraiment...
Juillet, 30 juin, 1er juillet.
Voilà, comme Romer, comme Aung San Suu, et que la cinéaste ne se rende pas compte à quel point, là, c'est peut-être trop, en fait. Aung San Suu, déjà, il le faisait, et bon, ça passe.
Ça manque de musique classique européenne, ça manque d'alcool, de femmes ivres, quand même.
Voilà.
Ça, c'est pour le deuxième
film. Non, mais je trouve
film.
Ça désarmant, en fait, d'être à ce point, de vouloir faire un film, et pour citer. C'est presque... L'innocence est là, en fait.
Alors, peut-être après, nous, on le regarde d'une manière que peut-être un public chinois ne le regarde pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que nous, on a peut-être tellement les références qu'on a du mal à le regarder autrement. Je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait produire comme effet que de regarder ce film sans du tout connaître Aung San Suu ou en connaissant un petit peu Romer. C'est peut-être très différent. Moi, en fait, Romer, ça me dérange pas tant que ça parce que je sais pas, peut-être j'estime que ça fait partie du patrimoine et qu'il y a une sorte de distance, voilà, temporelle qui fait que la citation même littérale peut passer. Moi, ça me choque vraiment beaucoup plus sur, sur Aung San Suu. Alors, c'est peut-être un tropisme parce que je mets tout le cinéma asiatique dans le même sac, ce qui est vraiment une erreur de ma part, probablement.
Absolument.
Mais je pense qu'il y a de ça pour un spectateur occidental.
Je pense que c'est un film destiné à un public. Enfin,
c'est à Venise qu'il a été révélé. Voilà, c'est un film de Venise. Il a eu un très bon accueil,
cultivé, qui connaît son Romer et tout ça. Donc, à mon avis, je ne sais pas dans quelle mesure le public chinois voit ce film. C'est ça un peu la question.
Ouais, il faudrait savoir combien de salles.
Je me prononce pas sur la question.
On projetait ce film. Combien de personnes il a pu toucher? Il a touché beaucoup de festivaliers pour effectivement donner raison à Thierry Chaise. Vous n'étiez pas à Venise les uns ou les autres, parce que bon, visiblement, cet accueil fut très bon pour Trois aventures de Brooke. Quelque chose à ajouter? Ah oui, je devais le défendre.
Oui.
C'est un film formidable. Moi, il y a une grâce que j'ai trouvée absolument incomparable. J'ai beaucoup aimé dans cette vieille rue.
Après moi, il y a un truc quand même où je me suis dit, ah tiens, un film chinois léger. Quand même, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Enfin, on va parler on va pas parler des mutations économiques et tout.
Ouais, ça intervient un tout petit peu d'ailleurs. C'est pas
Oui, oui, c'est voilà. Et c'est le bien traité. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Et il faut quand même passer par Romer pour avoir cette légèreté. Voilà. Est-ce qu'il y a une légèreté possible qui viendrait juste de l'esthétique du pays en lui-même? Enfin, je sais pas si je me fais comprendre.
Enfin, c'est tout en Malaisie, je vous le rappelle.
Oui, oui, mais...
Ce qui signifie aussi quelque chose.
Mais ça fait du bien de voir un film qui s'échappe quand même du réalisme social. Au début, je me suis dit ça. Après, le film est rattrapé par autre chose.
Bon, ben, vous l'avez défendu pour moi. Des places à gagner, ça vous empêche pas d'aller voir. Trois aventures de Brooke de Yuan Ting, qui est sorti mercredi sur les écrans.
Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux. It's a small thing.
Mais qu'est-ce donc que cet extraordinaire voyage de Marona qui est votre coup de cœur, Thierry Chaise?
C'est déjà un film plein d'audace, parce qu'un film d'animation qui sort hors vacances scolaires, alors qu'a priori, même, il est plutôt pour un public enfantin, mais pas que, ça a donné envie d'y aller. C'est un film qui avait été repéré au dernier festival d'Annecy, et c'est le nouveau long-métrage d'Anca Damian, qui est une cinéaste roumaine, qui s'était fait connaître déjà par l'animation, mais avec des films beaucoup plus adultes. C'était notamment Le Voyage de Monsieur Krulik.
Elle s'intéressait à
un compagnon de route de Massoud en Afghanistan. Alors, vraiment, quand j'ai vu l'affiche et quand j'ai vu le pitch, je me suis dit, bon, on part dans la joliesse.
Vous voulez dire le point de départ?
Le point de départ, tout à fait. Et voilà, on n'a plus l'habitude de parler, c'est pour ça. Le point de départ est simple. C'est le film s'ouvre, une petite chienne est en train de traverser la rue, se fait écraser, et on va donc revivre toutes les vies de cette petite chienne, sachant qu'elle a été abandonnée très tôt et adoptée par différents maîtres et maîtresses. À partir de là, on peut faire en effet un film totalement mièvre, où on va vous mettre du violon autant que vous en voulez. Le vrai travail très réussi dans le cas d'Amienne, c'est que, alors qu'elle vient sur le terrain pour la première fois d'un cinéma donc plus enfantin, qu'elle est habituée à des sujets plus adultes, elle arrive à trouver un parfait équilibre. La grande réussite du film, par-delà son scénario, c'est qu'à chaque nouveau propriétaire correspond une forme visuelle d'animation différente.
Il y a de la 2D, il y a de la 3D,
il y a du papier découpé, et donc il y a quelque chose... visuel. Alors, en effet, parfois, ça peut s'inspirer de Miro, de Picasso, mais au bout du compte, ça s'inspire de tellement de choses. Et qui fait que, d'un seul coup, cette histoire qui pourrait être, je le répète, mièvre, larmoyante au possible, devient, par ce côté visuel, quelque chose d'extrêmement ludique, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement ambitieux et qui prouve qu'on peut, et pas seulement Pixar, s'adresser dans l'animation à tous les publics. Et au-delà du mélange des genres qui pourrait faire quelque chose à l'arrivée d'assez insupportable, comme on dit 1917, à un moment on n'en peut plus, c'est qu'on se dit, quand arrive un nouveau maître, une nouvelle maîtresse, qu'est-ce qu'elle a inventé? Qu'est-ce qu'elle va trouver? Et à chaque fois, elle arrive à faire quelque chose à la fois d'épatant, mais de très en accord avec ce qu'elle a écrit. Et donc, tout le récit tient. Il n'y a pas de suspense, quoi. C'est un récit qui est totalement en boucle, mais que je trouve vraiment avec, en effet, un message à destination de l'enfant, sur le côté, voilà, il faut s'entraider et tout, mais jamais abêtissant. Et c'est en cela que c'est très bien que le film soit sorti hors vacances scolaires. Allez-y. Alors, en effet, c'est un film qui est dans très peu de salles, mais vraiment, le passage à un cinéma plus adulte dans le cas d'Amien, m'a vraiment convaincu.
Ah non, et puis c'est Brecht Evans, vous n'avez pas dit qu'il a créé les personnages, c'est quand même pas n'importe qui. On parle dans les disputes bande dessinée de ce surdoué belge qui est Brecht Evans. Elle a une bonne tête, Marona. J'aime bien sa tête, non Muriel, que vous en pensez?
Moi, j'adore les chiens, alors, et puis plus les chiens dessinés, donc voilà.
Bon. C'est ce que j'avais On y dit. Va demain. Vous l'avez déjà vu?
Non, pas du tout.
Vous avez envie, hein?
Non, mais il y a un revival chien qui n'en finit plus. Vous trouvez pas?
Revival pour la mort d'un chien, je ne sais pas.
C'est Lilo Chien de Wes Anderson qui a lancé là.
Ouais, il y a eu un tout temps. Ça a commencé déjà il y a un an et ça n'en finit plus. Et
ça vous réjouit?
Oh, ben oui.
Bon. Lucille Gaumont, ça vous intéresse pas?
Je me fous complètement des chiens.
Surtout dessinés?
Oui.
Alors écrivez directement. Vous d'insultes à Lucille Gaumont. N'encombrez pas.
Ouais. Oui, alors vous allez me faire.
Bon, allez, c'était l'extraordinaire voyage de Marona dans le cas d'Amiens, coup de cœur de Thierry Chaise. Et on a envie d'aller voir grâce à vous. Merci Thierry.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
Terminons cette dispute cinéma avec un film français, 12 000, de Nadège Trébal. Au départ, un couple qui s'aime, qui se débrouille, tant bien que mal, pour survivre jusqu'à ce que Franck perde sa source de revenus. Bon, illégale, il est vrai. Il promet à sa compagne, Maroussia, il l'appelle. Moi, je dis Maroussia, mais pour ce prénom, enfin, celle que je connais. Il promet à Maroussia de partir, le temps de gagner autant qu'elle en une année, soit
12 000 euros.
Merci Muriel.
C'est terminé ici depuis longtemps. Tu vas devoir partir trouver du travail ailleurs. Il ne pourra plus faire l'amour. Ben vas-y, va trouver mieux que moi, mon gros salaud. T'as zéro chance. Si tu veux qu'on gagne vraiment pareil tous les deux, il faut pas gagner plus ni moins, ni plus ni moins.
Voilà, 12 000.
Stop. Tu vas voir avec ton intérim, on n'embauche plus personne, ça sert à rien de venir.
Depuis tout à l'heure.
Je repère les conteneurs, j'achète les infos, j'investis dans le matériel.
On fait 50-50.
Chaque soir, je joue mon fixe. 40 euros par tête.
Eh oui, le micro est ouvert, c'est comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de radio. 12 000, premier tour de table sur ce film d'Amédée Strebal, Lucille Gaumont.
Oui, c'est un film qui navigue entre tout un tas de formes et de genres et qui ne s'attache jamais et du coup qui a des difficultés à se rendre attachant.
Thierry Chaise.
Une odyssée prolétaire, intrigante et du coup qui, à laquelle je me suis attaché moi, mais même malgré ses défauts.
Muriel Jodet.
Alors moi, c'est très bizarre, mais j'ai eu un rejet total du film. Et d'un bout à l'autre, ça a été un supplice, mais vraiment. Et mais avec ce que le rejet a de comment dire, d'injuste et de total, d'aveuglant même, j'étais là, mais c'est pas possible. Donc je sais pas pourquoi.
Bon, votre ressemblance avec Nadège Tréval peut-être.
Non, mais je pense que ça joue, parce que pour les gens qui, voilà, qui nous écoutent, je suis le sosie de la réalisatrice actrice du film. Et ça aussi, je pense que ça fait partie du rejet.
Ça va être compliqué. Ouais. On a beaucoup pensé à vous.
Je sais, moi aussi.
En voyant 12 000. Bon, ce point évoqué qui était important pour nous, Lucille Como.
Oui, c'est un film qui est assez alléchant. Bon, au générique, tout est là. Il y a Rodolphe Burgé à la musique qui est cette espèce de star du rock indé, un peu un télo planant. Il y a Jean-Claude Galota à la chorégraphie.
Comment vous en parlez?
Mais si, c'est
non, mais c'est drôle. Non, mais c'est drôle. Oui, oui.
Il y a Françoise Legrain.
Amis de mes amis sont.
Qui est là et qui a un petit rôle. C'est quand même un peu la hype au générique. On se dit, bon, c'est prometteur de ce point de vue-là. Et en effet, enfin, le film est assez surprenant. Donc, c'est-à-dire que je comprends l'agacement, parce que je pense que ça peut créer d'emblée une forme de rejet, parce qu'il y a un effet de surprise. Le problème, c'est que cet effet de surprise tente de se renouveler en permanence et qui devient très artificiel. Donc, vous l'avez dit, c'est un couple au départ qui vit dans un tout petit appartement. Déjà, il vit avec une vieille dame, avec une fille qui doit
Françoise
avoir une
Lebrun,
dizaine d'années.
Genre
voilà.
Hype.
Oui, voilà.
Tant qu'à faire. Non, mais c'est vrai.
Oui, voilà, exactement. Non,
gros signal, ça clignote.
Oui, voilà, ça clignote. Donc, il y a donc une fille qui doit avoir une dizaine d'années. Il y a aussi plein de jeunes enfants qui ont à peu près le même âge. Et déjà, pendant quand même une bonne partie du film, on ne comprend pas quelles sont les relations entre ces personnages, s'il s'agit d'une famille, etc. Bon, après, on comprend. Donc, il y a une première partie qui est familiale dans un lieu extrêmement clos, puisque c'est un tout petit appartement. Ça, je trouve ça pas mal fait, la manière de filmer l'espace. On déplie les lits, on les replie, on jarte la vieille et la fille pour faire l'amour parce qu'il n'y a pas de place, etc. Il y a cette scène de sexe qui est envahissante, c'est-à-dire qu'elle elle nous saute un peu à la gorge dès le début du film. Elle dure extrêmement longtemps. Elle est relativement crue. En tout cas, on ne voit pas toujours ça dans le cinéma français. Si, elle est quand même assez longue. Elle est très... Moi, je trouve qu'elle est quand même particulièrement
investie. On ne voit rien, voit
oui,
rien du...
elle est
beaucoup
investie,
moins que dans la plupart des...
Elle est investie, il y a un langage... Bon,
ouais. Elle est investie.
Voilà. Et puis après il y a le départ donc de cet homme qui décide d'aller gagner de l'argent ailleurs, et là on est dans une sorte de parcours, vous disiez Odyssée, en effet un peu initiatique, avec plusieurs rencontres qui ne se poursuivent jamais vraiment. Donc il y a une rencontre avec un ami ouvrier, sa mère, ça dure une scène.
Mais rencontre pas Brooke, bizarrement.
Et puis de jeunes finances, il pourrait. Moi mon problème, c'est vraiment un problème global avec... un certain type de film français, c'est la question de l'investissement naturaliste. C'est-à-dire que c'est un film qui commence sur une scène de casse, donc dans une casse, le type il récupère des trucs de voiture, extrêmement typé dans tout, la manière de filmer, les vêtements des personnages, le langage, la relation entre la jeune fille et son père, etc. On est en contexte naturaliste sur la classe ouvrière, et le film n'assume pas ça, et essaye toujours, à partir de cette base là, de faire un peu autre chose. Et ce faire un peu autre chose, ça passe par tout un tas d'artifices qui sont autant des incursions vers le genre que des motifs. Alors ça peut aller, il y a des moments où ça fait presque thriller, il y a des effets de suspense parce que lui, bon, il se retrouve à être un moment gardien, enfin complètement illégalement dans des docks. Donc il y a des scènes de containers de nuit qui sont des scènes types du film d'action. Il y a des petits motifs qui clignotent encore une fois, mais littéralement, par exemple, alors qu'il est justement gardien de nuit dans ces docks, il fait passer des jeunes filles illégalement pour qu'elles piquent des choses dans les containers. Et qu'est-ce qu'elles volent, ces filles? Elles volent des petites babioles qui brillent un peu, qui font des jolis effets à la caméra. On met par-dessus une musique un peu clipesque et
c'est
tout
aberrant
ça.
Aberrant
donne,
ça même,
mais voilà, donne des séquences qui sont complètement contradictoires avec le projet naturaliste qui est quand même la question de l'argent, la question de ce que fait l'argent au désir, ce que fait l'argent au couple, etc. Et qui en plus sont esthétiquement, mais rabattu. Moi, je n'en peux plus de la musique électro, les corps chorégraphiés dans ce contexte-là. Et je trouve ça vraiment, bon, je vais y revenir parce que la question de l'érotisme et tout me pose aussi problème. Je trouve ça politiquement insupportable. Vraiment.
Vous vous expliquez pourquoi dans un instant.
Il faut arrêter de prendre des personnages d'ouvriers, des personnages prolétaires pour faire ça. C'est plus possible, vraiment. Moi, ça me met en colère, quoi.
Thierry Chaise. Ouais. Le temps que Lucille se calme un peu.
Non, mais c'est quelqu'un qui vient du documentaire et qui a, et c'est en fait le documentaire qui a quasiment inspiré cette fiction. C'est-à-dire que elle a tourné dans des docks, elle a fait des choses et a souhaité par la fiction, raconter ce qu'elle ne pouvait pas faire en documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses où elle n'avait pas accès à certains domaines, tout ça. Donc, moi, l'idée de ce film qui, d'un seul coup, commence en effet par sa scène d'amour et qui, finalement, voudrait, en tous les cas, tente, et c'est en ça que c'est peut-être pas toujours réussi, mais tente d'explorer, en fait, de partir et du sexe et de l'argent pour raconter ça. Et ensuite, en effet, dynamiter tout ça. Moi, je vois beaucoup de films dans le petit monde du cinéma social français qui aussi restent scotchés à son naturalisme et qui finalement finissent, moi, par m'ennuyer. Sans doute qu'il y a...
Comme, par exemple ?
Voilà, j'en ai une quantité astronomique. Mais j'ai l'impression que c'est ça la dominante pour moi. Et alors là, sans doute que c'est maladroit. Sans doute que tout ne marche pas. Sans doute que d'un seul coup, les chorégraphies peuvent paraître bizarres. Mais je suis, moi, entraîné par l'histoire. Je trouve que moi, j'aime beaucoup ce comédien qui s'appelle Harry Wartelter, qu'on avait vu dans Girl notamment. C'était le père de... Je trouve qu'il y a quelque chose dans son physique, dans son jeu, qui me plaît. Et la tentative qu'elle a, en effet, de partir de quelque chose naturaliste pour aller ailleurs, moi, me séduit. Après, je ne marche pas à tout. Je suis tout à fait d'accord avec Lucille Gamot sur les moments du vol. Mais je ne sais pas. Je suis en tous les cas embarqué. J'ai envie d'aimer, quand ça m'agace, ben c'est pas grave, parce que ça me remue, ça fait quelque chose, et c'est un film qu'à l'arrivée, j'ai plutôt envie de défendre, et pour parler de cette scène du début de, on en reparlera de ça, que je trouve, moi, elle est parfaitement chorégraphiée, il y a un art de justement, sans rien montrer, de nous le jeter à la figure, que moi j'aime bien, voilà.
Muriel Jodet, sur ce film de Nadège Trébal, 12 000.
Non, je pense que ce qui m'a irrité, c'est que le film se donne beaucoup d'air. Déjà, l'idée que il va être cru et désabusé sur les rapports conjugaux, sur l'argent, sur le sexe, pour nous dire finalement, mais des banalités. C'est-à-dire que je pense qu'elle ne se rend pas compte à quel point l'argent dans le couple, c'est beaucoup plus pervers et pernicieux que ce qu'elle filme. Là, c'est vrai. Je trouve que c'est traité de manière totalement inconséquente, comme Lucie le disait, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas assez au sérieux son sujet, alors que l'idée, a priori, est plutôt belle, c'est-à-dire que cet homme qui doit venir avec 12 000 euros, ni moins ni plus, exactement ce que gagne sa femme, c'est une belle idée, mais en fait, non, c'est pas ça, l'argent dans un couple. C'est pas... Je trouve que c'est une idée belle, mais très artificielle, comme l'est le film. Donc, politiquement, il se veut un peu cru, alors que c'est pas du Bria, c'est vraiment... il est cru pour nous dire vraiment des banalités sur l'argent pourri, l'argent qui salit tout, l'argent qui excite les femmes sexuellement. C'est pas très intéressant. Et l'autre chose qui m'a... Je mets de côté le fait que je trouve le film d'une laideur assez confondante au niveau de la musique, au niveau de la mise en scène. Même si au début, ce qui me plaît assez, c'est qu'on est vraiment dans un appartement, on voit de prolo. Il est moche, mais il est moche parce que voilà, on n'a pas le temps de décorer, il y a trop de monde. Ça m'a un peu plu. Après, je me suis dit non, en fait, le film est vraiment laid. Et encore une fois, je suis pas en train de critiquer les moyens avec lesquels elle a fait le film. C'est pas du tout ça mon propos. C'est vraiment qu'à un moment, il faut penser que le film ne trouve pas sa forme, ne trouve pas sa musique, ne trouve même le son. Il y a un tiers des dialogues que je n'ai pas compris, donc il y a un gros problème, et ça c'est un problème du cinéma français. On fera une dispute spéciale son peut-être.
Je suis d'accord avec vous pour faire ça.
Et donc il ne se trouve pas. Et en plus de ça, il y a cette fantaisie qui joue vraiment totalement contre le propos politique du film, et qui est vraiment que je ne supporte plus. C'est-à-dire, c'est dit qu'on va prendre des chorégraphes et que, en fait, pour échapper au naturalisme, on va faire de la petite fantaisie, on va danser en bleu de travail et ça va être chorégraphié par un chorégraphe connu. Que je ne connais pas, mais il y a ça, c'est devenu, en fait, c'est devenu un cliché. Boson a fait ça. Oui. Ne me regardez pas avec un air gêné, s'il vous plaît. Boson a fait ça, Bruno Dumont a fait ça. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Je les ai même plus en tête. Claire Denis, c'est devenu un cliché de cinéma français. C'est-à-dire, quand on ne veut pas faire du naturalisme, on va faire danser les pauvres. Et elle ne se rend pas compte à quel point cette fantaisie, mais vraiment, parasite totalement son propos. Moi, je n'ai presque rien compris du film à cause de ça. Parce qu'à chaque fois, elle désamorce la gravité, le récit, son propos politique par « Ah ben, on va faire une scène un peu de genre, on va danser, puis là, on va faire un peu de surnaturel. » Parfois, ça marche ensemble, si vous voulez. Parfois, chez Kaurismäki, ça marche ensemble. C'est organique, ce lien entre fantaisie et réalisme et et politique. Là, à force de vouloir mimer ce non-naturalisme, cette échappée par rapport au naturalisme, je trouve qu'elle n'arrive à rien sur aucun tableau.
Comme j'ai cité Gardoni, je précise, pour Beau Travail, elle fait appel à Bernardo Monte. Pas pour insérer des séquences chorégraphiques, mais pour voir comment une troupe de légionnaires, qu'est-ce que c'est que les corps de ces jeunes gens dans le désert en mission, même si générique fin, c'est quand même Denis Lavant qui danse Rhythm of the Night et que c'est un des plus beaux génériques fin de l'histoire du cinéma. Mais bon, je partage tellement de choses avec vous. Alors pas, Harry Vortalter, moi je l'avais beaucoup aimé dans Girl, ici, mais il m'est insupportable de la première à la dernière image. Je trouve qu'il y a un problème vraiment de, je peux pas être en empathie. Moi, le personnage de Nadège Trébal est plus intéressant de ce point de vue-là, parce qu'elle est quand même une ambiguïté qui est plus riche, complexe. Il y a quand même, c'est elle que j'avais envie de voir pendant plus longtemps dans le film plutôt que lui. Bon, c'est lui qu'on suit. Pas de chance pour moi, parce que au moins ça a amené un peu de complexité. Oui, ennui, assez de laideur, mais comme Lucille Comeau des choses à nous dire sur le point de vue politique concernant 12 000, qui nous reste 3 minutes.
C'est très lié à la question du corps de l'acteur principal dont vous avez parlé, c'est-à-dire que c'est en fait le seul élément stable du film, c'est ce corps-là, c'est la manière dont elle le filme, dont elle l'aime, dont elle le désire, assez évidemment, ce qui est une bonne manière de filmer un corps. Moi, pour moi, la danse est en effet un contresens absolu, parce que si on assume de filmer l'érotique d'un corps de manière crue pour en faire une vraie tension, on ne sublime pas par la danse. Enfin, l'effet de sublimation, il annule totalement l'effet du corps. Donc, toutes les scènes de danse, à mon avis, sont très artificielles. Et moi, j'ai quand même beaucoup pensé, bon, je vais relancer ce débat-là, mais sur l'investissement érotique du corps prolétaire à Zaya dans Une fille facile. À mon avis, c'est la même manière de ne cesser de montrer un corps comme un objet de désir absolu et penser que assumer le cliché, ça suffit à le désamorcer. C'est-à-dire qu'on l'assume tellement qu'on se dit, ah, mais les gens sont au second degré, ils vont bien comprendre que ce que je veux montrer, c'est plus que ça. Mais non, en fait, non, ça suffit pas. Il y a pas de discours. Non, mais ça ne le rend pas acceptable. Ça ne rend pas acceptable de créer de l'artifice sur ce cliché-là qui n'est pas possible, en fait, qui n'est pas possible, plus représentable. Et moi, j'ai aussi beaucoup pensé à, je sais pas si vous aussi, mais à Martin Eden, parce que le personnage principal a un corps de ce type-là. Il y a des plans, bon, c'est évidemment pas fait exprès, mais de lui, de dos, parce que l'imaginaire du, pareil, l'imagerie ultra usée du marin, l'imagerie ultra érotique du marin est hyper convoquée. Il a un sac de marin sur le dos, il y a des plans sur ses épaules hyper carrées de loin, devant la mer, etc. Dans Martin Eden, il y a un vrai investissement érotique du corps prolétaire qui est intéressant parce qu'il y a de la complexité, qu'il y a de la tension, qu'il y a de la violence et que c'est très bien fait. Là, ce n'est pas bien fait et quand c'est pas bien fait, en fait, ce n'est pas possible, je trouve, vraiment. Politiquement, ce n'est pas possible.
Ouais, Loudé, un mot encore ?
Oui, non, je pense que c'est un problème moi que je rencontre dans beaucoup de films français, c'est cette manière de ne pas vouloir se coltiner les scènes, c'est-à-dire qu'on va montrer des bouts où on va tout de suite passer à l'ironie ou à un personnage un peu, il y a cette femme qu'on nous présente comme un peu une nymphomane, on va tout de suite passer à quelque chose de séduisant, de clinquant, au lieu de vraiment se coltiner la scène. Et je pense que la seule chose qu'elle se coltine, c'est pour le coup, et que j'apprécie, c'est cette idée de à chaque fois que ce couple se rencontre, ils ont envie de baiser. Ça me plaît plutôt sur l'idée. Au bout d'un moment, on a compris. Au bout d'un moment, on a compris qu'ils aimaient baiser et que c'est cool. Et
Le personnage, il a un problème d'écriture, le personnage masculin, parce qu'il a quand même envie de baiser avec tout le monde, pour le dire aussi crûment que vous. La scène avec Florence Thomassin que vous évoquez, elle est... Florence Thomassin, non mais c'est intéressant ce qui se passe de son côté à elle, du côté de son personnage à lui. Il fiche la scène en l'air, donc il y a quand même à chaque fois
avec ce rapport de personnage... tu m'excites, mais c'est l'argent, non, c'est pas l'argent.
Il pouvait se passer quelque chose, en tout cas dans le discours du personnage Florence Thomassin. Le dernier mot pour Thierry Chaise.
Dans le genre, on chante, on danse dans une usine. Alors, j'espère que c'est le bon titre.
Alain Guiraudy ?
L'usine de rien.
Non, Soleil pour les gueux d'Alain Guiraudy, c'est ça le meilleur. Ça chantait pas peut-être dans celui-là.
Dans l'usine de rien, c'était vraiment des gens qui se faisaient virer et qui eux-mêmes... Et donc ça peut marcher.
Sinon il y a pique-nique en pyjama de Stan et Donen. Pyjama Game. Ça se passe dans une usine de pyjama.
Bon, ben voilà, d'autres films à voir. 12 000, nous parlions de ce film de Nadège. Alors j'ai dit Trébal depuis le début, je sais pas pourquoi. C'est Trébal, puisqu'il n'y a pas d'accent.
C'est Trébal.
Il n'y a pas d'accent. Bon, alors qu'elle m'excuse, car normalement je demande aux gens comment prononcent leur nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc Nadège, Trébal ou Trébal. Le film est sorti mercredi. Avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui va d'abord nous poser la question, du jeu de ce soir. On fait gagner ce soir des invitations pour trois aventures de Brooke. Tiens, le film de Ching Chang qui est une cinéaste chinoise. David.
Quel est le nom de l'unique acteur français du film Trois aventures de Brooke de Ching Chang?
Alors si vous avez raté le milieu de l'émission, hein, vous pouvez le réécouter trois fois. Pour avoir la réponse au jeu et gagner des places. Vous nous envoyez cette réponse avec vos coordonnées postales à l'adresse mail suivante auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir, Théo Gomard et Jacques Ezubert. Réalisation Alexandre Fougeron. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute spectacle en compagnie de Karine Châtelet, Lucille Como et Philippe Chevillier. Notre affiche, Una costilla sobre la mesa, madre d'Angélica Lidl. Un conte de Noël, d'après le film d'Arnaud Desplechin, c'est une mise en scène de Julie Deliquet. Détail de Lars Noren, mise en scène Frédéric Bélier-Garcia. Et je livrerai mon coup de cœur pour acteur de Dapper Dutot, en ce moment à la Commune à Aubervilliers.